Histoire à contre-courant, une émission proposée par Anne Bernet.
Chers auditeurs, nous avons le privilège d'être avec Jean-François Solnon qui évoque pour nous sa belle biographie d'Anne d'Autriche parue chez Perrin. Jean-François Solnon. Anne d'Autriche n'est ni une épouse infidèle, ni une espionne de la cour d'Espagne qui livrerait des secrets militaires ou politiques à l'ennemi. Comment expliquer cette position que vous évoquiez à l'instant, ces difficultés de cette jeune femme? Elle est mariée à un homme qui ne l'aime pas ou qui l'aime par crise. C'est très curieux, les relations du couple royal. Elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Elle a fait fausse couche sur fausse couche. Et elle a des relations extrêmement difficiles avec sa belle-mère, Marie de Médicis, qui pourtant appartient elle-même à ce parti dévot. Et pour compliquer encore les choses, en face d'elle, il y a Richelieu. Et là encore, les rapports de la reine et du cardinal, tout caricaturés qu'ils aient été par Dumas, sont extrêmement compliqués.
Oui, la vie d'Anne d'Autriche n'est pas un fleuve tranquille avant la mort de Louis XIII. Il faut dire que Louis XIII est un souverain qui a eu l'intelligence de comprendre la politique de son principal ministre, de Richelieu, c'est-à-dire lutter contre les grands du royaume, toujours prêts à se révolter contre l'autorité royale, et également lutter contre la monarchie des Habsbourg, qui, depuis Vienne ou depuis Madrid, risque de prendre en tenaille le royaume de France. Louis XIII a, et c'est la journée des dupes, Louis XIII a accordé donc un satisfecit à Richelieu à partir de ce moment-là et est resté fidèle. En ce sens, c'est un souverain qui est particulièrement soucieux de défendre l'État et l'unité de l'État. Et sur le plan personnel, c'est autre chose. Et en particulier dans ses relations avec son épouse. Louis XIII nous apparaît comme un homme extrêmement ombrageux, plutôt maussade. En plus, c'est un taiseux. Il ne voit sa femme véritablement qu'en présence d'autres membres de la cour, donc publiquement. Mais lorsqu'il a des reproches à formuler à son épouse, et quelquefois, elle en mérite quelques-uns, eh bien, il est incapable de lui parler face à face. Il fait transmettre sa colère ou ses ordres nouveaux par l'intermédiaire de tierces personnes. Donc, Anne d'Autriche a une vie particulièrement difficile, une vie intime difficile. Son mari la néglige, Louis XIII est impressionné et peut-être même un petit peu étonné par le comportement plutôt joyeux de cette jeune femme qu'il a à ses côtés. Il est impressionné par sa beauté. Louis XIII est un homme qui est sensible à la beauté féminine, à condition que ce sentiment n'aille pas plus loin. Par conséquent, ni elle ni lui n'ont été des souverains adultères. Mais Louis XIII se comporte assez mal quand on voit les choses un peu près avec Anne d'Autriche, préférant toujours sa mère, et sur le plan protocolaire c'était particulièrement net, à son épouse. Alors on a une épouse délaissée. Louis XIII et Anne d'Autriche pendant très longtemps vont vivre comme frère et sœur, mais pas comme mari et femme. Et il faudra attendre plus de 20 ans pour qu'un enfant naisse dans le couple. Et Dieu merci, c'était un garçon, c'est le futur Louis XIV.
On pourrait croire que la naissance du dauphin et l'année suivante de son frère, le futur duc d'Orléans Philippe, va changer du tout au tout la vie de la reine puisqu'elle est enfin mère. Pourtant, on a l'impression que cette espèce de relation un peu perverse, une certaine cruauté de la part de Louis XIII vis-à-vis de sa femme, ne va pas s'améliorer puisqu'il va avoir désormais, après le chantage à la répudiation pour stérilité, il a le moyen du chantage « je vous sépare de vos enfants ».
Oui, Louis XIII a manifesté son caractère à l'égard d'Anne d'Autriche, d'ailleurs pendant la grossesse, c'est-à-dire à partir de l'automne 1637. Ne supportant pas que Anne soit très entourée par ses dames qui demandent des nouvelles de sa santé, qui font attention à elle comme on ferait attention très légitimement à une femme enceinte. Ça, il a du mal à supporter. Et puis, lorsque l'accouchement a lieu, manifestement, et je crois que ce n'est pas lui faire insulte a posteriori, il faut sauver l'enfant, et puis la mère, on verra, le ciel y pourvoira, en quelque sorte. Donc, il y a cet aspect-là assez déplaisant. Et puis, il y a aussi le fait que cet homme, dont je vous disais à l'instant que c'était un homme particulièrement ombrageux, il ne supporte pas que, rencontrant son fils, donc le futur Louis XIV, et celui-ci étant un enfant, puisse pleurer, puisse être effrayé à la vue de son père avec la moustache conquérante de Louis XIII. Et là, il s'en prend à sa femme en disant « c'est inadmissible que cet enfant ne manifeste pas autant d'amour qu'il devrait ». Et peut-être faudrait-il changer son éducation. Et il y a toujours eu cette menace, cette espèce d'épée de Damoclès qui pesait au-dessus de la tête d'Anne d'Autriche, qu'on lui retire ses enfants. Et ça, c'est quelque chose qui est inacceptable pour chaque mère, d'ailleurs, mais aussi pour Anne d'Autriche.
Et voilà qu'en 1643, à quelques mois d'intervalle, Richelieu et Louis XIII disparaissent. Anne se retrouve veuve. Elle se retrouve surtout régente de son fils. Et cela, alors là, c'est un tournant définitif dans sa vie. Est-ce qu'elle est prête à assumer ce rôle politique ?
Non, elle n'est pas prête parce qu'elle a toujours été écartée des affaires politiques par son mari. Elle n'a jamais pu pénétrer au conseil du roi. Louis XIII acceptait la présence de sa mère avec laquelle il a eu des relations plutôt difficiles, les fameuses, celles qu'on appelle les fameuses guerres de la mère et du fils. Mais Marie de Médicis réussit toujours à être présente, enfin très longtemps, à être présente au Conseil du Roi, ce qui n'est pas le cas d'Anne d'Autriche. Anne a été vraiment mise sur la touche par son mari, et brusquement, elle devient celle qui pourrait être régente. Alors le sera-t-elle complètement, j'allais dire en temps complet, ou simplement superficiellement, c'est toute la question. Et la Cour considère que cette femme est une femme qui est sans doute sensible aux pressions des coteries, qui n'a pas un grand caractère, et par conséquent, chacun attend avec impatience le nom de celui qui va l'aider dans sa tâche. Alors il y a plusieurs noms, vous imaginez les réflexions des membres de la cour, plusieurs noms circulent, puis brusquement, Anne d'Autriche a nommé le cardinal Mazarin comme principal ministre. Alors, c'est une grande surprise parce que Mazarin, c'est en quelque sorte le fils spirituel de Richelieu.
Et c'est une créature du cardinal.
Oui, une créature de Richelieu qui, sur son lit de mort, avait recommandé Mazarin, le jeune Montsinor, et l'avait recommandé à Louis XIII en disant « employez-le ». Ce que Louis XIII a fait. Et Louis XIII le lègue à son tour à sa veuve. Et c'est le cardinal Mazarin qui va accompagner jusqu'à sa mort Anne d'Autriche dans les affaires de l'État. Ça, c'est la première grande surprise, ce qui montre que d'ailleurs que cette femme que l'on imaginait frivole, superficielle, fait déjà un premier choix qui est de bon choix.
C'est une femme ensuite, intelligente, beaucoup plus capable de passer par-dessus des rancunes légitimes.
Exactement. C'est là où les caractères se révèlent, c'est dans les difficultés. Là, c'est une première difficulté qui est une difficulté de cour, de nomination d'un principal ministre. Mais elle est suivie, cette difficulté, immédiatement par une autre, qui est une cabale de grands seigneurs qui veulent s'en prendre à Mazarin. Ils ont essayé à quatre reprises, d'ailleurs, de s'en débarrasser. Et cette cabale dite des importants, eh bien, va échouer grâce à Anne d'Autriche, qui a réussi un très beau coup tout au début de sa carrière. Et j'allais oublier une chose importante, pardonnez-moi, c'est que Louis XIII lui a laissé la régence, mais avec un cadeau empoisonné, puisqu'il l'a accompagné d'un conseil de régence où les voix devaient être toutes comptées, où il n'y avait pas de voix prépondérante à Anne d'Autriche. Et Anne d'Autriche a fait casser ce testament pour obtenir du Parlement de Paris, d'ailleurs, obtenir la régence pleine et entière. Donc elle est maîtresse du jeu. Maintenant, c'est à l'expérience qu'on va pouvoir la juger et les difficultés ne vont pas tarder à arriver. Comme on le disait tout à l'heure, la grande difficulté de son règne, c'est la grande difficulté d'ailleurs de l'histoire de France du XVIIe siècle, c'est le développement de la Fronde, c'est ce mouvement de révolte auquel on a donné bizarrement le nom d'un jeu d'enfant.
Vous n'hésitez pas, Jean-François Solnaud, à dire que face à cette Fronde, que ce soit celle des princes ou celle des parlementaires, Anne va sauver la couronne.
Oui, elle a été très habile. Elle a su d'abord quitter Paris dans la fameuse nuit des rois de 1649 avec la famille royale, parce que la famille royale était menacée. On a oublié aujourd'hui la violence, non seulement des propos, je pense, aux Mazarinades, mais des violences physiques qui sont exercées à cette époque-là. À plusieurs reprises, avant même le déclenchement de la Fronde en 1648, la reine, la régente, allant faire ses dévotions à la cathédrale Notre-Dame, est interpellée par un groupe de femmes qui se plaignent du gouvernement et qui s'en prennent à elle. C'est les ancêtres des arrangères, si vous voulez, des tricoteuses de la Révolution française. Il y a vraiment un péril très net qui existe dans la part de la population parisienne. Et par conséquent, le fait de dire « nous quittons le palais royal » puisqu'elle vit au palais royal, qui est d'ailleurs un palais qui n'est pas propre d'ailleurs à abriter la famille royale puisqu'il n'a aucun élément de défense. Il n'y a pas de fossé, il n'y a pas de courtine, etc. Donc quitter le palais royal pour gagner le château relativement proche, mais en dehors de Paris, de Saint-Germain, c'était déjà une première initiative qui était une bonne initiative. Il y en a une autre plus tard lorsqu'elle accepte de céder. Je crois qu'elle a eu raison de le faire. Elle a cédé à la population parisienne pour leur montrer que le jeune Louis XIV, l'enfant encore, est bien au palais royal et dans son lit. Alors elle fait venir tous ceux qui veulent. On avait toujours l'impression que c'était une seule fois. Non, ça s'est répété à plusieurs reprises. Elle accepte d'ouvrir les portes de son palais, avec tous les risques que ça comporte, évidemment, et pour montrer que le jeune roi est bien là. Alors, il est dans son lit, il dort, ou plutôt il feint de dormir, et il est observé par ceux qui criaient très fort avant de rentrer dans le palais.
Ça le traumatisera durablement.
Ah ben, il conservera ce souvenir, évidemment, toute son existence. Mais là, Anne d'Autriche a réussi... sans brusquer, justement, l'astuce, c'était de ne pas brusquer, c'était pas de fermer le palais, c'était pas de se défendre militairement, c'était d'accepter la présence, c'était un risque, mais la présence de cette foule, ça a permis de sauver la couronne. Donc, c'est une femme qui, à la fois, parce qu'elle est complexe, comme tout être humain, bien entendu, il y a des moments au cours de la Fronde où elle a une sorte d'autoritarisme qu'elle éprouve, et heureusement, Mazarin, plus sensible au compromis, est là pour l'apaiser. Et quelquefois, elle sait justement se débarrasser de cet autoritarisme pour faire une œuvre de conciliation.
Quelque chose m'a frappé en vous lisant, Jean-François Solnon. Vous mettez en exergue de votre travail cette oraison funèbre prononcée par Louis XIV au lit de mort de sa mère en janvier 1666. « Nous avons perdu un grand roi. C'est la meilleure des mères, c'est une grande souveraine, c'est une politique. » Et pourtant, on se rend compte en vous lisant que dès qu'il en a l'âge, Louis XIV va très habilement, très respectueusement l'écarter du pouvoir.
Alors, si j'ose dire, c'est un péché de jeunesse. Enfin, c'est un jeune homme qui est resté longtemps spectateur des affaires de l'État, initié par Mazarin, très bien initié par Mazarin, qui a parcouru d'ailleurs, ça c'est aussi à mettre à l'actif d'Anne d'Autriche, qui a parcouru le royaume pour aller pacifier des provinces qui, à la suite de la Fronde parisienne, s'étaient révoltées. Donc c'est un spectateur. Et c'est un jeune homme qui bout d'impatience, mais qui ne veut pas modifier, j'allais dire, l'organigramme du gouvernement royal. Par conséquent, il faut attendre la mort de Mazarin pour entendre dans sa bouche cette déclaration étonnante, qu'il faut rappeler sans cesse, Louis XIV décide de se passer de Premier ministre. Or, ça fait tout de même un certain nombre de décennies que la France est gouvernée par un principal ministre, enfin qui est un cardinal, Richelieu, puis Mazarin. Donc se passer d'un Premier ministre, se passer de ministériat et prendre seul en main les affaires de l'État. Alors après cette déclaration, personne n'y croit. Et Anne d'Autriche, pas davantage. Parce que l'homme est jeune, on sait qu'il aime les divertissements, il aime les fêtes, il aime les femmes. Par conséquent, il durera 6 mois. Et comme vous le savez, il a tenu promesse 54 années jusqu'à son ultime souffle. Voilà un souverain qui a fait son travail, son métier de roi, comme il disait lui-même, pendant 54 années. Alors, évidemment, là, à ce moment-là, sa mère a moins d'importance pour lui. Elle, d'ailleurs, elle le ressent, elle ne se plaint guère, mais elle le ressent. Elle semble écartée. Elle est une sorte de reliquat de la vieille cour, une cour plutôt dévote, alors que Louis XIV, jeune, est entouré de jeunes gens qui sont particulièrement turbulents. Elle représente donc cette cour dévote, cette cour des bons usages. C'est un problème de génération qu'on pourrait trouver dans d'autres siècles de l'histoire, mais il est vrai que Anne d'Autriche est éloignée de Louis XIV, ou plutôt le roi s'est éloigné de sa mère. L'amour qu'il a pour sa mère va rejaillir évidemment à partir du moment où celle-ci va être touchée par la maladie, va souffrir corps et âme pendant plusieurs années jusqu'à sa mort.
Jean-François Solnon, cette émission touche à sa fin, malheureusement, car nous aurions pu discuter encore très longtemps. Tant tout cela est passionnant, je rappelle que vous publiez aux éditions Perrin Une biographie d'Anne d'Autriche que je recommande pour son intelligence, sa clarté, à nos auditeurs. Merci infiniment.
Je vous remercie de votre accueil.